cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe, le 26 octobre l'an 2000 à Saint-Jeotard.
Nous étudions, nous analysons tous les actes qui sont tous les actes volontaires qui sont inclus dans le choix d'un ami. Ceci, c'est pour essayer de comprendre le rôle de l'amitié par rapport à la morale. Jean Vianney vient de faire paraître sa thèse ancienne qu'il avait passée sur l'éthique. Il a intitulé ça « Le goût du bonheur ». Et il fait fonder la morale sur le goût du bonheur. Je ne dis rien, mais ce n'est pas assez précis. Parce que le goût du bonheur n'est pas moral. Il est humain, mais il n'est pas moral. Vous avez naturellement le goût du bonheur, j'espère. Si vous avez le dégoût du bonheur, c'est grave. Ça prouve que vous êtes vraiment très malade. Le goût du bonheur, on ne sait pas exactement ce que ça signifie, le goût. Pour les dons du Saint-Esprit, ça va, on peut parler du goût, mais du bonheur. Et j'essaie d'analyser le premier amour que vous avez pour quelqu'un. Dans l'amour d'amitié, il y a un premier amour qu'on a pour une personne. On a fait attention à cette personne plus qu'aux autres. Et puis petit à petit, on a considéré qu'en effet, ça pouvait être un ami. Et il y a eu un premier amour. Ce premier amour n'est pas moral. Il n'est ni bon ni mauvais. Il est bon si, de fait, vous continuez à vouloir faire que ce premier amour se transforme en une intention de vie. Vous voyez, ça rejoint le cours de ce matin, au point de vue de la finalité. Quand vous aimez spontanément quelqu'un, vous l'aimez, mais il n'est pas la fin de votre vie. C'est pas la même chose du tout. Aimer quelqu'un et avoir une intention morale qui finalise ma vie. Aimer Dieu et considérer que Dieu est la fin de ma vie, c'est pas la même chose. Beaucoup de personnes aiment Dieu. Ah oui, je l'aime, oui. Mais il n'a pas du tout la fin de leur vie. Qu'est-ce qui fait ce passage? C'est ça que je cherche avec vous. Qu'est-ce qui transforme ce premier amour en une intention de vie? L'intention de vie implique un amour. Mais il y a autre chose qu'un amour. Il y a une intention de vie. Vous aimez quelqu'un, un jeune homme aime une jeune fille. Simplement, il l'aime. Je ne sais pas, il m'attire. Je ne sais pas, je ne peux pas expliquer ça, mais il dira. Je me souviens, un garçon qui me disait, il y a deux personnes qui m'attirent. Je ne peux pas les épouser toutes les deux. Il y a deux personnes qui m'ont dit, je suis pris par l'une et l'autre. Alors, j'ai commencé par analyser, de lui dire, mais pourquoi ? Oh, je ne sais pas. Mais il faut que tu saches. Et puis, il y en avait une qui avait dit, oui, je crois, avec elle, je pourrais mener une vie chrétienne. Ah ! Et avec l'autre, je crois pas. Elle dit, est-ce que tu es chrétien avant tout ? Ah oui, oui. Alors, tu hésites encore ? C'était le passage de l'amour à une intention de vie. C'est très important ça, dans l'éducation. Parce qu'une amitié implique une intention de vie. Simplement, quand vous dites « je l'aime », c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'imagination dans le premier amour. Et c'est même très souvent ça, ce premier amour. C'est l'intelligence qui va transformer ce premier amour en une intention de vie. Parce que l'intelligence va regarder cette personne que j'aime, elle est mon bien. Je l'aime, c'est mon bien. Le bien, c'est ce que tous désirent. Dans tout amour, il y a un bien. Il y a ou un petit gâteau, ou une personne. C'est pas la même chose. L'autre chose, je voyais, parce qu'heureusement, on en connaît un petit peu de ministère, l'autre chose, je voyais quelqu'un, envoyé par quelqu'un que je connais, et des gens mariés, déjà depuis un certain temps, plus aucun goût de l'homme vis-à-vis de son épouse. Alors, la femme est saisie plus facilement. Elle m'a dit, il doit y avoir une autre femme dans sa vie. Et lui, il n'a pas avoué du tout, hein. Et c'est très juste. S'il peut y avoir un autre amour, l'amour de 18 ans, l'amour spontané, hein, je parle de cette première attirance, qui est le plus mystérieux, tu vois, cette première attirance, n'est pas la même à 25 ans qu'à 45 ans. C'est forcé. Puisque cette attirance spontanée, elle est faite de quoi ? Elle est faite d'un appétit naturel, instinctif. À 45 ans, on est attiré par autre chose qu'à 25 ans. On est attiré par quelqu'un d'autre. Si on ne fait pas grande attention. Alors, l'homme vertueux, c'est très bien qu'il n'a qu'une épouse. Et il se dit, non, je n'ai pas le droit. C'est une tentation. Hélas, ça peut arriver. On ne va pas demander à quelqu'un qui est très attirant, ah, mettez un voile. Hein. Elle ne peut pas. Elle peut très bien jouer à la séduction, ça c'est pas bien. Elle le sait, l'ouest. Elle sait que c'est pas bien. Jouer à la séduction. Je vais la voir. Mais elle est ce qu'elle est. Et elle est ce qu'elle doit être. Elle n'est pas mariée, elle. Donc elle est libre. Et son amour, ça se ressent dans toute sa personne. Elle n'est pas mariée, donc elle est libre. Et une personne mariée s'aperçoit bien de son mari, s'aperçoit bien, ah oui, depuis 6 mois, c'est plus le même. Il doit y avoir une femme dans sa vie, une autre dans sa vie. Vous voyez, on touche un problème du point de vue philosophique est très important à saisir, du point de vue moral. C'est très important. Vous voyez, on ne pousse pas assez notre philosophie morale aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a tellement besoin de psychologues. Alors que si on poussait plus notre philosophie morale, beaucoup de problèmes s'éclaireraient. Parce qu'au point de vue philosophique, on va plus loin. On touche la finalité. Tandis que la finalité, au point de vue psychologique, non. On voit les accidents de parcours, et puis on essaie de les raccommoder, mais les cas profonds, ce n'est que par la finalité qu'on peut rectifier quelqu'un. Ce n'est que par la finalité, si il n'a plus de goût du tout vis-à-vis de ce qui était sa finalité, avant tout, on doit essayer de redonner un visage nouveau à la finalité ancienne, qui est usée. Alors, le passage de cet amour qui nous attire à une intention de vie, c'est l'intelligence qui va nous faire comprendre si cette personne qui nous attire est vraiment un bien pour moi qui peut être ma fin. Vous voyez, le passage du bien à la fin. Ça, il faut le voir avant tout en morale, au point de vue humain. Et puis ensuite, on le voit au point de vue métaphysique. Il faut respecter ce premier analogué, qui fait partie de notre vie, ça. Notre vie est mûre si, quand on dit quelqu'un, « Oh, il manque de maturité », ça se dit, ça. Il manque de maturité. Où voit-on sa maturité? C'est quand il a un choix de vie. Il est passé de l'amour à la finalité. Et il veut respecter cette finalité. Quelqu'un n'est pas mûr quand il reste uniquement ses premières impressions d'amour. Alors il y a première impression d'amour, le second jour une autre impression d'amour. Il n'est pas mûr. Il voltige. La voltige est très bien dans son domaine de gymnastique, mais pas dans le domaine de l'amour. C'est trop dangereux. C'est la connaissance qui me permet de passer de la bonté qui m'attire, la bonté liée à la beauté. Le grec qui dit le bien et le beau, c'est ce qu'il y a de meilleur. Je, par l'intelligence, je peux voir si cette personne bonne peut être ma fin. Et alors, à ce moment-là, l'amour se transforme en une intention de vie. Et l'intelligence éclaire cet amour, le rend plus lucide et plus déterminé. C'est vraiment une intention de vie que j'accepte. Cette intention de vie, moralement, je peux l'accepter. Je suis libre. Si je je suis déjà déterminé, ou dans la vie religieuse, ou par le mariage déjà. Je ne peux pas. Je sais que je ne peux pas. Cet amour premier, je le respecte, il faut le respecter, mais je l'ordonnerai à savoir que j'aime cette personne, on restera dans des relations sympathiques, je serai très content. Je sais que ça ne doit pas devenir une intention de vie. Et je la respecterai. Vous voyez, c'est très important ça. Alors, dans l'amitié, ce premier amour s'est transformé en une intention de vie. L'ami, celui qui peut être mon ami, que je considère comme mon ami, l'ami, c'est une personne que j'aime pour elle-même et comme pouvant me libérer de moi-même pour aimer quelqu'un d'autre et pour m'aider à être victorieux de ce premier égoïsme, tellement naturel, tellement foncier, qui est très fort à cause du péché originel. Et qui si souvent... Je désire garder. Alors, il faut m'en libérer. Dans l'intention, dans l'amour d'amitié, ce premier amour est devenu une intention de vie. Et à ce moment-là, vraiment, mon ami devient la fin de ma vie, une fin partielle qui n'est pas la fin dernière, parce que je sais que Dieu existe. Si je ne sais pas que Dieu existe, je suis en face d'un païen, de quelqu'un qui ne sait vraiment pas si Dieu existe. Cette personne qu'il aime devient d'une façon très spéciale sa fin, jusqu'au nouvel ordre. Quand il découvrira que Dieu existe, il verra que ce bien, cet amour à l'égard d'un bien qui n'est pas le bien total, qui n'est pas la fin ultime, va relativiser mon premier amour, va relativiser cette première fin. Je peux rester longtemps avant de passer à l'acte d'accepter ça. J'essaierai de maintenir une fin plus immédiate. J'oublierai Dieu, parce que ça s'oublie facilement. Bref, pour ceux qui aiment passionnément quelque chose, ils oublient. C'est comme un voile, c'est comme un brouillard qui fait qu'on ne voit plus. Et on ne veut plus voir. Ça achève ça. Dans l'amour d'amitié, j'aime mon ami comme un amour qui fait que je respecterai qu'il puisse y avoir quelqu'un que j'aime plus. Et à ce moment-là, l'amour d'amitié passera au second plan. Quand j'aime mon ami comme une fin qui peut prendre toute une partie de ma vie, qui peut prendre toute ma vie. J'essaie à partir de là presque avant, hein, très souvent avant que ça devienne une intention de vie, j'ai délibéré quels étaient les autres biens que j'avais en vue. Il y a une délibération, il y a un conseil. On peut très bien donner conseil à quelqu'un dans une délibération en vue de préciser que ce bien est une fin, que je puis vraiment regarder cet amour comme l'aurore d'un amour beaucoup plus profond qui impliquera un choix. Cette intention de vie deviendra un choix à l'égard de cette personne. Alors, quelle différence y a-t-il entre l'intention de vie et le choix ? C'est aussi très important, ça. C'est pas la même chose. L'intention de vie porte sur la fin. Et tous les moyens s'ordonnent à cette fin. Tous les biens secondaires, qui sont très nombreux, les biens immédiats. Je vois que l'intention de vie est quelque chose qui porte sur la fin, mais quand cette fin, c'est une personne, je vais la choisir, l'aimer, dans un amour toujours plus déterminé. Vous voyez ? Première détermination, l'intention de vie. Deuxième détermination, le choix. Et ça, c'est l'intelligence qui pénètre toujours plus dans l'amour et qui fait que de plus en plus, ce bien, cette personne que j'aime, m'apparaît comme vraiment celle qui peut être le bonheur de ma vie, qui peut être le bien que j'atteins et qui peut m'aider à être plus moi-même. Et cette personne est fin et elle devient choix. Ah. Normalement, le choix présuppose la fin. Et je choisis tel moyen en vue de la fin. Ça, c'est le choix classique. Quand vous étudiez ce que c'est que le choix porte sur les moyens. Et vous allez dans un magasin, vous choisissez une bicyclette. On a tous choisi une bicyclette. On vous a montré différents modèles. Ça fait briller devant vous tous les avantages du modèle. Puis on vous a montré que c'était pas beaucoup plus cher que l'autre, pas grand-chose. Un peu plus, mais pas grand-chose. Vu les avantages, ça disparaît. Vous savez bien ce que c'est que le choix. Il y a des gens qui sont très habiles à vous faire choisir. Le choix aux élections, quand vous choisissez, quand vous votez, vous faites un acte de citoyen. Vous choisissez. Vous choisissez telle personne en fonction de ses intentions qui sont conformes à vos intentions de vie. Vous voyez les quelques points essentiels, nécessaires, qu'un chrétien doit réclamer. Un chrétien doit réclamer puisse choisir une éducation chrétienne. Et donc, on ne choisira que des candidats qui respectent l'éducation chrétienne.
et les candidats qui ne voient qu'une seule éducation, une éducation civique d'État, on fera attention. Et le choix d'une personne, le choix d'un électeur, le choix d'une nourriture, telle nourriture plutôt que telle autre, on choisit. Le choix est tout à fait libre. Déjà, l'intention de vie était libre. Mais ça se voyait moins. On était tellement pris par l'amour qu'on dit « Ah, c'est bien ça, c'est nécessaire que ce soit ça. » Une intention de vie s'impose comme une nécessité. Enfin, en réalité, ce n'est pas une nécessité. Mais ça s'impose comme une nécessité. Ah, alors on va distinguer deux espèces de liberté qu'on ne fait jamais et qu'on devrait faire. La liberté d'exercice, elle existe pour l'intention de vie. Et la liberté de délibération, de choix, d'un moyen de détermination. Il y a deux libertés différentes. Et c'est très intéressant de voir ça. La liberté de choix, cet amour s'impose vraiment comme un amour pour moi. Mais je ne suis pas obligé de poser cet acte tout de suite maintenant. Je peux attendre. Je veux avoir plus de renseignements, je veux attendre. Ce n'est pas encore très net. J'attends. Donc, vous posez ou vous ne posez pas cet acte. Cet acte de choix. Puisque cet acte porte bien sur la fin, mais je suis libre d'accepter aujourd'hui cet engagement, ou l'accepter. Il faut bien voir que quand je choisis, il y a deux dimensions au choix. Poser ou ne pas poser l'acte. Exercer ou ne pas exercer l'acte. Et puis, une liberté de, à l'égard. Et c'est vrai ça, je peux poser l'acte, je suis libre, et je peux poser tel choix, tel candidat, je suis libre. Donc il y a une liberté où on choisit la détermination, la personne, on choisit le moyen, et une liberté où on choisit l'acte. La liberté d'exercice est plus radicale que la liberté de choix. Dans la liberté de choix, il y a les deux libertés qui jouent. Parce que vous choisissez, vous posez l'acte, et vous choisissez telle détermination. Tandis que dans la liberté d'exercice, qui est plus radicale, qui est plus fondamentale, il ne faut jamais oublier. C'est pour ça qu'il y a un péché d'omission. Parce que vous étiez libre de poser cet acte avant. Et vous n'avez pas voulu le poser. Vous avez voulu respecter. La liberté d'exercice porte sur l'application que j'ai de mettre mon intelligence au service de l'amour. Et c'est toujours ça, la liberté d'exercice. La volonté, elle paraît comme exigeant d'opérer tout de suite. On est comme poussé d'opérer tout de suite. L'intelligence est à la source de la liberté. C'est l'intelligence qui rend libre. Plus vous êtes intelligent dans un domaine, plus vous êtes libre. Quand vous ne connaissez pas bien, vous n'êtes pas libre. Parce que vous dépendez de l'autre qui vous dit. Pour les élections, c'est comme ça. Quand on ne voit pas, on éclaire, quelqu'un nous éclaire, donc on dépend de lui. Et parce qu'on dépend de lui, on n'est plus libre. C'est pas nous qui avons posé ça. Alors, vous voyez, ce premier amour, cette intention, l'intelligence, qui me fait découvrir le bien absolu, la fin. Je pose cet acte, je cherche, est-ce que c'est bon pour moi de choisir cet ami comme ami, de faire que ma fin, au point de vue moral, soit directement dans cet ami. Il reste fin et en même temps je le choisis. Je le choisis. Moi ou un autre qui puisse m'aider, me soutenir, être là pour me permettre d'atteindre une fin. Vous voyez, vis-à-vis de l'ami, il y a ça. L'ami, je l'aime pour lui. Je peux très bien m'aider d'un ami. Et alors à ce moment-là, l'ami devient un moyen. Et en tant qu'il devient un moyen, il n'est jamais totalement l'ami. Quand l'amour diminue, le moyen augmente. J'aime plus beaucoup. Celui-là, je l'aime plus beaucoup. Mais il m'est très utile. Et alors, je maintiens les relations. Parce que c'est des relations importantes. Il faut maintenir ça. Mais l'amitié disparaît. Donc, voyez donc le choix qui vient s'ajouter sur l'intention de vie. Et chaque fois, la volonté va appliquer, va montrer qu'on va plus loin. Et enfin, j'arrive à ce choix d'amitié qui s'impose à ma vie. C'est un choix d'amitié, d'amour, et en même temps, l'amitié qui me permet d'aller plus loin. D'être plus généreux, d'aimer davantage. Tout cela, je réfléchis en moi-même. Mais il y a un moment où il faut passer à l'exécution. Et on appelle ça l'impérium. Vous voyez la complexité de l'acte moral, hein. La complexité de l'acte moral. Chaque fois, c'est un acte distinct. Je passe à l'impérium, c'est-à-dire, j'aime profondément cet ami, je fais une déclaration d'amitié. Tu es vraiment mon ami. L'amitié demande que l'ami dise à son ami qu'il est son ami. Et quelquefois, cette déclaration, elle est capitale. Et vous pouvez rester très, très longtemps ami de quelqu'un sans lui dire, sans savoir très bien si il vous aime de la même manière. Il dit, ça n'a pas d'importance. Je l'aime pour le Christ. Ah, là, là, morale chrétienne. Je l'aime pour le Christ. Et tout de suite, au point de vue humain, au point de vue purement humain, vous comprenez très bien, vous dites que vous aimez quelqu'un. Vous l'avez dit. Non, je n'ai pas dit, j'ose pas. Et c'est vrai, il y a des, beaucoup de personnes qui n'osent pas dire à leur ami, je t'aime. Ça ne va pas. Je ne sais pas si même. Alors j'aurais l'air de quoi ? D'un imbécile ? Je l'aime, je l'aime, mais je m'aime pas. Je chercherai l'occasion pour qu'il m'aime, pour pouvoir lui dire. Et c'est quelquefois très difficile de dire à quelqu'un je l'aime. Et pourtant, il faut lui dire. Parce que l'amitié implique la connaissance. L'amour peut rester caché, mais pas la connaissance. L'élément de connaissance intervient pour l'intention de vie, il intervient pour le choix, et donc il intervient ici pour que ce choix se dise, s'énonce. Parce que l'amitié exige qu'on sache ce que l'ami dit en vérité. On gardera l'impérium la fois prochaine, parce que c'est très important aussi, l'acte d'impérium.